et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous parlent tous et toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode aux côtés de Marine, pour un sujet qui concerne, malheureusement, des milliers de femmes à travers le monde. Dans un rapport de 2018, le Haut Conseil pour l'égalité des femmes et des hommes a déclaré que 6% des femmes, soit 50 000 personnes, se déclarent insatisfaites du suivi de leur grossesse ou de leur accouchement. Une femme sur deux ayant subi une épisiotomie déclare l'absence totale d'explication sur le motif de cet acte. Et 3,4% des plaintes déposées à l'ordre des médecins en 2016 concernent des agressions sexuelles et des viols commis par des médecins. Aujourd'hui, nous parlerons donc de violences gynécologiques et obstétricales. Le HCE en donne une définition très précise qui a été renommée d'actes sexistes se produisant dans le cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. Ces actes sexistes, durant le suivi gynécologique et obstétrical, peuvent être des gestes, des propos, des pratiques, des comportements exercés ou omis par un ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours de son suivi, traversés par la volonté de contrôler le corps des femmes. Ils sont le fait de soignants, soignantes, de toute spécialité, femmes et hommes, qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants. Et pourtant, ils peuvent prendre des formes très diverses, des plus anodines aux plus graves. Le HCE identifie 6 types d'actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, dont certaines relèvent des violences gynécologiques, notamment non prise en compte de la gêne de la patiente liée au caractère intime de la consultation, propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids qui renvoie à des injonctions sexistes, injures sexistes, actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente, actes ou refus d'actes non justifiés médicalement, et enfin, violences sexuelles, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Marine est passée par là, et pourtant, son histoire ne s'arrête pas à un accouchement d'une violence inouïe. Par-delà la gravité des actes subis pendant son accouchement, Marine a dû faire face à la mort, et elle nous racontera comment elle a en quelque sorte choisi de rester sur cette terre. Les expériences de mort imminente sont rares, très discutées, très controversées, mais pourtant il me semble bien réel. Bonjour Marine, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
Bonjour Marie. Alors, je m'appelle Marine, j'ai 39 ans, je suis dans ma 40e année, période charnière. Je viens du sud de la France et depuis une quinzaine d'années, j'habite en région parisienne. Je suis pharmacien de formation, j'ai exercé en tant que pharmacien d'officine et puis en industrie. Et depuis 3 ans, la naissance de mon deuxième, je reste à la maison, je suis mère au foyer et je développe une activité d'accompagnement en parallèle.
Alors aujourd'hui, on se retrouve pour échanger autour de ce que tu as vécu en tant que femme, mais surtout en tant que maman. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta première grossesse ?
Alors, je suis tombée enceinte en 2012. Ça a été assez rapide, parce qu'en étant pharmacien d'officine, j'ai eu pour habitude de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient du mal à tomber enceinte. Donc je me suis dit que je subirais le même lot. Et pourtant ça a été extra rapide. Donc je tombe enceinte, j'ai des saignements au départ. Donc il y a quand même un petit climat de peur qui s'installe. Puis beaucoup de contractions, ce qui m'oblige à m'arrêter quelques semaines. Et puis mon travail, à l'époque, je travaillais pas en officine, mais en entreprise, donc en bureau. Ils m'autorisaient à faire du télétravail, déjà. Donc, en télétravail, je venais une semaine par mois au bureau, parce que le travail était assez loin. Et ça me permettait de rester à la maison, mais à continuer à travailler à plein temps. Voilà, la grossesse s'est déroulée un peu sur ce fond de peur, parce que l'image que j'en avais, ce que j'en connaissais, ce qu'on m'avait dit, ce qu'on en perçoit, ce qu'on en sait de la télé, des récits des mères et autres. Donc voilà, j'appréhendais un accouchement douloureux et difficile. Et puis les mois ont passé, et puis on arrive au test de diabète. Évidemment, je suis diabétique, diabète donc gestationnel. Du coup, enfin, quand on rentre dans la catégorie diabète gestationnel, on rentre dans plein d'examens et toute une multitude de tests, de suivis, d'échographies et autres. Le stress augmente, ça amène pas à une grossesse sereine. Et puis par-dessus, bon, je suis asthmatique et je fais de l'asthme. Donc voilà, c'est des conditions quand même assez pas fluides pour une grossesse sereine. Des peurs de l'accouchement surtout, liées à plein de récits assez dramatiques, quoi. Aucun récit finalement que je connais où ça s'est bien passé. Donc une appréhension. Et puis une totale confiance, bien sûr, dans le système médical. Voilà, c'est la seule chose qui me rassure à l'époque, c'est ça. Être dans les mains des médecins, me faire accoucher en fait, me faire accoucher. Voilà.
Et donc du coup, ton accouchement a été le point de départ de nombreux questionnements. Bah, comment s'est déroulé cet accouchement justement ? Tu as notamment, j'introduis un petit peu, mais tu as vécu 2 choses décisives dans ta vie. Déjà, d'une part, ces violences gynécologiques et une mort imminente. Donc, bah, je te laisse nous dire avec tes mots ce qui s'est passé, comment s'est déroulé cet accouchement, ce qu'il en a découlé et comment tu l'as vécu.
Donc, c'est donc 2012 et ma date de terme est prévue le 27 décembre, donc 2 jours après Noël. J'ai ce diabète qui est là. C'est un petit diabète, hein. J'ai pas d'insuline. Voilà, c'est un diabète qui est finalement assez classique presque, où je dois juste faire attention à mon alimentation. Au dernier rendez-vous, au dernier monitoring, parce que j'ai un suivi rapproché sur la fin de grossesse, ils me disent que j'ai quand même un risque de gros bébé, et que lié au diabète et qu'il va falloir me déclencher. Et ça, donc, on parle du 18 décembre. Je me rendrai compte après que c'est peut-être pour des raisons d'accommodation de la période de Noël que la date, enfin, qu'on m'a proposé un déclenchement. Donc, ce déclenchement, je le vis pas très bien, mais bah, toujours pareil, en confiance totale, ils savent. Je sais que moi, j'ai pas envie, je le sais, intérieurement, je le sais. Mais bon, cette sensation n'a pas de poids à l'époque. Je m'en remets bien sûr aux grandes décisions. Bah, je reste en maternité, en fait, pour le dernier monitoring, ils me gardent. Enfin, ils me demandent de revenir plutôt. Donc je reviens, je suis déclenchée, le déclenchement prend pas avec un tampon de propesse. Ça dure jusqu'au lendemain, où j'ai beaucoup de contractions très fortes, mais rien qui se passe. Bon, après en rentrant un peu dans le technique, mon col est toujours fermé. Et du coup, il me propose de faire la péridurale, parce que la péridurale pourrait accélérer les choses. Je pense que là, j'ai eu une rupture des membranes aussi, mais ça, on ne m'a pas du tout prévenu. Péridurale, ça veut dire aller en salle de travail et que le travail commence. Donc, j'appelle mon mari pour lui dire de venir. Et il est 20h le soir. Et puis, donc, péridurale, rien ne se passe toujours. Ça s'ouvre, mais vraiment de manière très lente. Il se passe des choses. Enfin, il y a des échanges entre les médecins, les sages-femmes et autres, mais sans qu'on soit vraiment au courant de ce qu'on fait. Et puis, comme il n'y a rien qui prend, le médecin vient et me dit qu'on va devoir faire une césarienne. Et là, pour le coup, je dis non. J'avais vraiment pas envie d'une césarienne. C'était quelque chose qui n'était pas possible pour moi. Donc, je lui dis que je ne veux vraiment pas une césarienne. Et il me dit, OK, bah, je vous laisse encore une heure, mais dans une heure, il n'y aura plus de négociation, on y va. Et pendant cette heure, le travail a commencé. Alors, en plus, la péridurale avait pris que d'un côté. Je pense que les doses d'ocytocine donc qui déclenche avait été bien augmentée. Enfin, je pense pas, je l'y suis après. Et là, j'ai des douleurs incroyables de contractions, mais sur déclencheur. Donc, je sais pas trop ce qui se passe. S'ensuit, finalement, il revient au bout d'une heure et il me dit, bah, c'est bon, en fait, le col s'est ouvert finalement. Et il est là, et donc, faut pousser. La poussée s'est passée de manière très rapide. Sous de la menace, hein, que le bébé allait pas bien, que vraiment il fallait accélérer et accepter peut-être aussi tout ce qui se passait. Il fallait accélérer le travail, on m'appuyait sur le ventre, on me disait mais poussez, enfin on m'engueulait quoi, vraiment on m'engueulait. Ça a été très rapide au final cette poussée, ça a duré 10 minutes il me semble, et le bébé est arrivé. Bon voilà, déjà ça avait été quand même assez violent, assez difficile, assez douloureux. Ils attrapent le bébé, mais là je sens que, donc je suis toujours sur la table, et je sens que la panique monte, que le stress arrive, je sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je demande même à mon mari de tendre l'oreille, parce que je sens que quelque chose tourne pas rond, et qu'ils se disent des trucs qui vont pas. Et je lui dis, écoute ce qui se passe, il y a un truc. Et en fait ça va très vite, il y a beaucoup de monde qui rentre dans la pièce, on cale le petit avec mon mari dans un coin. Moi, je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Alors, comme je suis asthmatique, je me dis que c'est ça après l'effort. Et puis, bon, il finit par me dire qu'en fait, je fais une hémorragie de la délivrance et une hémorragie assez importante. Et du coup, bon, là, il se passe sans me prévenir. En fait, quand on fait une hémorragie, le process veut qu'il y ait une révision utérine parce qu'il se peut qu'un morceau de placenta soit laissé dans l'utérus, ce qui fait que l'utérus croit que le placenta est encore là et donc les échanges sanguins se font encore. Donc, on procède à une révision utérine. Donc, une révision utérine, ça veut dire que le médecin met sa main jusque dans l'utérus, on fait le tour pour vérifier qu'il n'y a aucun morceau qui soit resté accroché.
Oh mon Dieu.
Et là, surtout, enfin, la péridurale était toujours que d'un côté, en fait. Hein, elle n'avait pas pris. Et sans me prévenir, donc j'ai senti ce mouvement et je l'ai senti. Enfin, on sent. Hein, ça a été assez très douloureux, très vraiment très douloureux. Encore cette impression, cette sensation violente, quoi. Enfin, de sentir. Je ne sais même pas comment dire. C'est une rentrée en puissance à l'intérieur. On ne sait pas d'où ça vient. Et très, très douloureuse. Et bon, évidemment, il n'y avait rien. Le placenta était sorti en entier. Et bon, je le comprendrai plus tard, mais c'est évidemment ce déclenchement qui a été très fort, abusif, enfin avec des doses qui n'étaient pas les bonnes, que l'utérus a tellement contracté, a trop travaillé, puis s'en est épuisé en fait, et n'a pas pu recontracter normalement après la sortie, après la délivrance, la sortie du placenta. Donc ça coule, hein, ça coule. Moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe. On m'en dit deux mots, mais c'est tellement, on sent tellement le stress parce que je pense que c'est une des situations les plus graves pour la mère, que c'est panique à bord totale. Je vois bien mes normales, je vois bien ma tension, j'ai quand même accès au tableau, aux écrans, et je vois bien qu'il y a des choses qui vont pas. Moi, je respire pas bien, et puis j'ai cette sensation, cette intime sensation que si je m'endors, en fait, ils me disent je pose des questions, ils me disent mais vous occupez pas, laissez dormez presque. Et moi, j'ai cette sensation de si je m'endors, que je reviendrai pas, en fait. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je pouvais pas m'endormir. C'était sans retour, en fait. Donc, je reste éveillée. Il y a une force intérieure qui me maintient éveillée pendant tout ça. Je sais que j'ai des moments de où je m'en vais et je reviens, parce que j'ai des discours qui sont complètement incohérents. L'étape suivante, c'est que j'entends on transfuse. Ça a été douloureux, ça aussi. On transfuse. C'est pas, on va vous transfuser. C'est pas, est-ce qu'on peut vous transfuser? Je sais que c'est complètement... que dans le contexte ça aurait pas été possible, on peut vous transfuser, mais c'est ce dont j'aurais eu besoin en fait pour pouvoir dire oui, quoi, pouvoir donner mon accord sur un acte qui me semblait là encore hyper invasif, accepter quelque chose de l'extérieur encore en soi, quoi. Et non, ça a été on transfuse, quoi. C'était même pas la gravité du on transfuse qui m'a alertée, c'était cette invasion. Et on transfuse, et puis on appelle le SAMU, en fait, parce que j'ai accouché en clinique. Et il faut savoir qu'une maternité de type 3, même si j'avais choisi une maternité de type 3, on est en type 3 et en sécurité maximum, si on peut le dire, pour les enfants. Dans le cas de l'hémorragie de la délivrance, donc j'ai accouché en région parisienne, il y a, il me semble, trois plateaux techniques qui permettent l'embolisation, et qui est donc on injecte dans les veines un produit qui va permettre au réseau veineux de se recontracter. Et de refermer donc ces artères et veines qui sont en train de couler sans retenue. Donc il faut me transférer, et on me transfère, donc j'accouche dans le 15e et on me transfère dans le 18e à la Riboisière, ce qui n'est pas la porte à côté. Ça prend quand même pas mal de temps, tout ça, voilà. Et donc on me dit que je vais être transférée, que ça pourrait être un peu violent, voilà, que le SAMU n'est pas toujours très tendre, mais voilà, qu'il faut que je m'accroche. Et puis je suis toujours là, hein, surtout, je suis toujours quand même en minimum consciente. Donc je dis au revoir à mon mari et à mon bébé. Je leur dis au revoir. On se dit au revoir, on se dit vraiment au revoir. Parce qu'au vu de la situation, il n'y a rien qui... Enfin, tout le monde court, c'est vraiment l'urgence, quoi. Hein, et on sent bien que la situation est vraiment très grave. Et puis donc le SAMU me transporte. Le SAMU, finalement, ça n'a pas été si violent que ça, sur toute l'expérience. Et puis, donc, on arrive à la Riboisière. C'est là que je crois que je perds pied. Là, ça devient très flou. Je suis encore là, sans être là. Je me rappelle de ce long couloir, en fait, jusqu'à la salle. J'étais admise en salle de réveil. Il court en me transportant. Moi, je suis sur un brancard. Et là, il se passe un truc. Voilà. Alors, j'ai du mal à en parler parce que je ne sais pas toujours comment ce sera accueilli. Et que je n'en ai pas parlé à beaucoup de monde d'abord, mais là, à ce moment-là, je vois la Vierge, je vois une lumière et j'ai vu la Vierge. Voilà, elle est là et il n'y a plus de notion de temps en fait. Il y a comme un moment de pause, ouais, un moment un peu hors du temps. Ça va être un peu comme deux moments parallèles. Il y a ce qui se passe où je vois ce qui se passe, je suis consciente de ce qui se passe, et une discussion intérieure. Sur le fait de rester ou pas, de faire un choix en fait, de qu'est-ce qui se passe maintenant. Et donc point de vue conscient, physique, c'est dur, hein. J'arrive, il y a 10 personnes, je me crois dans l'urgence, hein. Il y a 10 personnes qui m'attendent, enfin une dizaine qui m'attendent, les bras en l'air, enfin les bras, les deux mains dans les gants, les bras sur le côté, ils sont là, ils attendent, il y a une prise d'assaut un peu, hein. Il me saute dessus sans me parler, sans rien, sans le moindre échange, pour me faire des branchements de partout qui prennent pas. En plus, je pense que là, je suis vraiment dans une position, je suis entre la vie et la mort, hein. J'ai des tremblements, je suis en choc, donc ils arrivent pas à me, je bouge tellement qu'ils arrivent pas à me brancher aux divers tuyaux et cathéters. C'est une scène assez violente quand même. ils n'arrivent pas d'un côté, ils s'y prennent de l'autre. Du coup, bon, je suis un peu abîmée. Bon. Et puis, en parallèle, ouais, ce truc un peu hors du temps où je dois faire un choix. Je me rappelle prier et supplier pour rester, en fait. Pour rester parce que y a un petit bébé qui m'attend de l'autre côté, quoi. C'est même pas tant pour moi, finalement. Je sais pas si plus tôt j'aurais fait les mêmes choix sur un accident de voiture ou voilà un autre accident, mais là en tout cas le choix il était très clair dans ma tête, c'était il fallait que je reste, quoi. J'étais devenue maman, donc fallait que je reste. Ils m'ont branchée et voilà, tout était allé dans leur sens, enfin tout était fait pour que je parte en faire cet examen, donc l'embolisation. Et là tout s'arrête, en fait. Dans le dossier, hein, c'est écrit que tout reprend, l'utérus se remet à se recontracter, que tout repart, alors lentement, hein. Je suis restée un moment après parce que j'avais quand même des normales qui n'étaient pas du tout normales. Mais l'utérus se recontracte, il n'y a plus de saignement et finalement je ne pars pas en embolisation. Voilà, les gynécos étaient descendus et c'est elles qui me font l'annonce que finalement il ne va rien se passer. Et là, en fait, tout le monde s'en va. Ils me laissent sur une table, donc nue, hein, avec des fils partout, les scotchs aussi, là, l'électrocardiogramme, enfin voilà, tout un attirail pas possible. Et on me laisse là. Et puis chacun retourne à ses activités. Et on me dit que je passerai sur un lit un peu plus tard. Et là, je pleure. Enfin, je pleure pas, j'ai pas de sanglots, ça coule en fait, ça se vide. Comme si, ouais, je m'étais vidée une première fois, puis là, il y a un relais qui se fait par les yeux. Voilà, je me souviens d'une phrase qui était, je crois que c'est un médecin qui est passé et qui me dit « Mais pourquoi vous pleurez ? Là, c'est bon, tout est fini, là !» Et me dire « Bah oui, c'est vrai, bah oui, tout va bien, pourquoi je pleure, en fait ? Ça y est, c'est fait, c'est bon, je suis sauvée. » Même moi, j'ai même pas de reconnaissance vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Et puis, il y a un médecin, je me souviens d'un médecin, mais je pense que c'était un médecin étranger, donc un externe, enfin, un échange, un Erasmus ou... Et qui vient me prendre la main, juste qui me prend la main et qui vient me dire ça va, maintenant c'est fini. Et ça a été les seuls mots sympas de tout ça. Seul échange où quelqu'un a fait preuve d'empathie. Et après, je suis restée quand même deux journées entières et une nuit dans cette salle de réveil de la Riboisière, qui est quand même assez... C'est une salle commune, enterrée, sous terre, il n'y a pas de fenêtre, il y a des éclairages, et puis c'est une salle de réveil, donc c'est une salle où les gens se réveillent, sortent d'opération, et puis dès qu'ils commencent à ouvrir un œil, montent en chambre, donc il n'y a aucune expérience de cet endroit, en fait, de manière consciente. Et moi, j'étais totalement consciente. Donc, je pense que c'est déjà, en plus, c'est un personnel qui n'a pas l'habitude de discuter avec des patients éveillés. Donc, il y avait des personnes au bout du lit qui venaient parler, comparer les constantes. Je saisissais des bribes parce que, j'ai quand même un discours médical acquis. Donc, j'en saisissais des bribes, j'ai compris certaines choses. Je n'arrive même pas à dire encore dans quel état j'étais à ce moment-là. Je sais pas où j'étais. Je comprenais pas ce qui venait de se passer. J'avais eu un bébé quelques heures avant. J'avais le ventre tout ramolli. J'étais... sur un lit, il y a des gens qui venaient parler, mais pas me parler, hein, parce que c'est pas vous, vous sentez comment, où vous en êtes, etc. C'était elle, des équipes qui tournent parce que c'est l'hôpital. Et toutes les deux heures en plus, on vient me donner des coups de poing dans le ventre, vraiment des coups, hein, des coups parce que on fait poire sur l'utérus, on fait un effet de poire pour voir si en appuyant fort va sortir encore du sang.
Donc te donner des coups de poing comme ça ?
Ouais, toutes les deux heures, ouais. Le point sur le ventre, et puis on appuie fort parce qu'il faut atteindre l'utérus pour que ça fasse vraiment un effet de pression, quoi, comme quand on appuie sur une poire médicale.
Oui, je vois.
Voilà. Donc, pour voir, bon, il en sortait plus, hein, c'était du sang, c'était des caillots, mais il n'y avait plus ça saignait plus. Mais en tout cas, il y a une surveillance qui doit être, et toutes les deux heures, on venait vérifier que ça ne reprenait pas. Donc, faut pas oublier que sur les protocoles d'accouchement, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, hein, depuis, j'avais pas mangé depuis midi la veille, hein. Pas mangé, pas bu. Alors j'avais une perf, hein, mais j'ai eu des sensations de soif terrible, terrible, et on voulait pas me donner à boire. J'avais le droit de sucer des compresses mouillées. En fait. ouais, j'étais dans un niveau de quand j'en ai parlé, enfin après, hein, quand j'ai avec une psychologue, quand j'ai dû parler du truc, ce qui en est sorti, c'était vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir été enfermée dans une cave, dans un endroit où on venait juste vérifier de temps en temps que j'étais encore en vie, quoi. Voilà. J'avais le droit à rien. J'ai pas eu droit aux besoins de base, de manger, de boire. J'avais aucune hygiène. Je venais d'accoucher quand même. Enfin, je me sentais sale. Je me sentais. Enfin, il y avait eu un effort. Ça avait été quand même déjà rien que l'accouchement avait été douloureux, difficile. J'avais fait un effort. J'étais épuisée. J'étais sans habit. J'étais sans rien. J'avais un drap qu'on soulevait, qu'on enlevait, qu'on me remettait pas forcément. Voilà. J'étais nue dans une pièce avec des milliers de personnes qui circulaient, des brancards qui rentraient, qui sortaient. Et j'ai demandé, je crois, au moment de partir, ouais, quand même, j'ai dit, excusez-moi, vous pourriez au moins me faire une petite hygiène, peut-être, quand même. Enfin, voilà, ça fait quand même 48 heures que j'ai pas été lavée. J'avais des scotchs partout, j'étais bleue, verte, jaune. Et qu'on a accepté, on m'a fait un truc rapide. J'ai eu la chance que mon mari puisse rentrer, parce que c'est des salles où on peut pas rentrer. Mais j'ai eu la chance que mon mari puisse rentrer. Donc, il arrivait à me passer me voir, mais il était partagé entre ben, le petit et moi, 15e, 18e, pleine période, c'était le week-end avant Noël. Voilà, et donc, suite à ça, retour à la maternité, vers 17h. Je suis partie de là hyper remerciante, hein, vraiment, il m'avait sauvée, c'était... Et même encore maintenant, je veux dire, il n'y avait aucune agression, aucun geste qui a voulu être... méchant, c'était vraiment, ils faisaient ce qui leur avait été demandé de faire, ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils savaient. Voilà, c'était des normales à remettre au bon chiffre, quoi. Hein, mais j'étais pas humaine en tout cas. J'étais complètement déshumanisée, ouais. Et puis sur cet épisode en plus de mort imminente. J'ai mis longtemps à comprendre, hein, vraiment longtemps. J'en parle depuis peu sur cet épisode où ouais, bah. Ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. Je suis là et je ne sais pas pourquoi je suis là, en fait, en vrai. Je suis encore là. Je suis encore là et puis il y a un petit bébé qui m'attend. Je l'ai à peine vu. On me l'a mis un peu au sein parce qu'en mettant au sein, l'allaitement engendre des contractions. Donc, c'était recherche de la contraction maximum. Hein, produit, bébé, tout ce qui pouvait, massage de l'utérus, tout ce qui pouvait... favoriser les contractions avait été employé, donc on m'avait collé le bébé au sein, c'est le seul échange de regard que j'ai eu avec lui, mais voilà, je me rappelle me demander à mon mari, mais est-ce qu'il est normal, il a tout, il est petit, il est grand, en plus j'avais un souvenir d'un 35 écrit au tableau, là quand ils écrivent les trucs, je me suis dit, mais il doit être, c'est un nain, il est minuscule, en fait c'était le périmètre crânien, voilà, enfin complètement paumé, puis faible, parce que j'ai eu une énorme souffrance cardiaque, j'ai fait un choc, je suis restée longtemps en fait, parce que mon taux d'hémoglobine ne remontait pas, donc voilà, j'ai été très faible pendant un moment. Et puis bah, j'ai retrouvé mon bébé, voilà. Et puis je suis restée 10 jours, 10 jours en fait, on a passé Noël là-bas, voilà pour ce qui est du récit juste de l'accouchement.
Ouais. Mais du coup les violences que tu as subies, déjà c'était cette ignorance de la part des autres médecins, de la part de très peu d'accompagnement on va dire psychologique, pour un peu comprendre ce qui se passait, pour te demander l'autorisation. Enfin, quand je pense qu'ils ont rentré la main dans ton utérus d'un coup, sans te prévenir, quoi, quasiment.
Non. Ouais. Alors ça a été... En fait, ça a été très difficile de comprendre ce qui n'avait pas été, en fait. D'abord parce qu'en revenant à la maternité, le médecin est quand même venu me voir. Il m'a dit que c'était très très rare ce qui s'était passé, que ça arrivait jamais. Enfin, c'était un cas sur je sais pas combien, mais 10 000, voilà. Et moi, j'avais pas été très bien préparée à l'accouchement. J'avais suivi la préparation de la maternité. Je m'étais pas renseignée plus. De toute façon, on s'occupait de moi, on m'accouchait, donc voilà. Pas grand chose à savoir. Un peu aider à peut-être à souffler pour le moment du travail, mais. Et quand il est... Donc, je ne suis pas hyper préparée. Et l'hémorragie de la délivrance, je pense que ça avait dû être émis à un moment, comme un risque, mais c'est tout, quoi. Naturellement, en tout cas, je me suis dit que c'était ce déclenchement qui avait forcément engendré ça, quoi. Que ce n'était pas possible autrement. Et il m'a dit pas du tout. Pas du tout. Ça a été très violent aussi. Pas du tout. Et s'il fallait recommencer, on referait exactement la même chose. Donc, bah, ce qui se crée, c'est que, bah, en fait, tout est normal et que c'est moi, c'est mon corps qui ne s'est pas accouché, quoi. C'est moi, c'est mon corps qui n'a pas su, qui ne sait pas. Donc, ça a été une grosse culpabilité. Ça, je sais que ça a été violent dans les premiers, dès le départ. Je sais que ce déclenchement était violent parce que j'en voulais pas. Je sais que ce déclenchement était violent parce qu'il était même pas sur une date. Quand on déclenche pour un diabète, il faut vraiment que le diabète soit déséquilibré. Il faut vraiment qu'il y ait un pressentiment de gros bébé. Et pour le coup, mes échos, elles prévoyaient un bébé tout à fait normal, mais j'ai accouché d'un bébé tout à fait normal puisqu'il faisait 3,5 kg à 7 jours du terme. Donc, on n'aurait pas atteint des dimensions surnaturelles. Et puis on déclenche plus tôt que ça. On déclenche plus tôt qu'une semaine avant le terme. Donc j'en voulais à ce déclenchement, j'en voulais à cette décision qui tournait autour de Noël, voilà, qui me semblait bizarre. J'en voulais à ces décisions prises à la va-vite, j'en voulais pour ce geste qui était facile à analyser pour le coup, qui avait été quand même très intrusif. J'en voulais pour la transfusion, voilà, c'était ça. Et puis après, le chemin vers l'hôpital où ça a été vraiment, en fait, c'était là que ça a été le plus violent et le plus insidieux. Ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre parce que j'étais tellement en reconnaissance de ce qui s'était passé. Voilà, la maternité m'avait mis HS et l'hôpital m'avait sauvée, en gros. Mmh. Et c'est vrai, ils m'ont relargué, ils n'avaient pas les capacités de faire ce qu'il y avait à faire. Donc c'est l'hôpital qui m'a remontée. Mais c'est les conditions non humaines quoi, que j'ai rencontrées. Alors oui, à la maternité, par des actes qui ont été faits sans me poser de questions, sans me demander. L'épisio, bien sûr, l'épisio n'a pas été... ça part du déchirement des membranes, hein. On m'a rien dit.
L'épisiotomie, c'est il me semble quand tu recoues.
Oui, c'est l'épisiotomie, c'est quand tu... on recoue si c'est une déchirure, mais une épisio, c'est on ouvre, hein, justement, pour faciliter... c'est encore un acte préventif. On ouvre pour faire une plus grande ouverture et ensuite, on recoue.
D'accord. Et toi, tu as eu une épisiotomie ?
J'ai eu une épisiotomie, ouais.
Et on t'a prévenu ?
Non. Non, ça fait partie des actes qui demandent en effet...
C'est fou, mais c'est impensable. Enfin... Un acte si brutal, si violent, enfin...
Bah, les épisios, c'est quand même très courant. Hein, même si on en parle de plus en plus, c'est très courant. Alors, la révision utérine, c'est quand même moins courant parce qu'il faut une situation d'hémorragie. Sinon, oui. Ça ne saigne pas, il n'y a rien à vérifier, c'est que le placenta est bien sorti. Donc, c'est quand même moins courant. Mais les épisios, c'est des actes de tous les jours, les épisios dans toutes les maternités. Je n'ai plus les taux, mais c'est... Ouais.
Mais c'est d'une violence inouïe quand même.
Oui, je crois, oui. Je crois, quand on vit les choses, qu'on se rend toujours moins compte. Mais oui, bien sûr, ouais. Ouais. Mmh. Oui, c'est violent. Ouais. Enfin, et puis surtout, c'est le corps, quoi. C'est le corps parce que, je te dis, même sans réaliser la violence, après, c'est mon corps qui a parlé, en fait. Parce que tout ce que j'ai ressenti à l'hôpital, enfin, tout ce qui a été vécu à l'hôpital... C'est ce conflit intérieur qui a été compliqué parce que mon psychique, tout ce qui était intérieur hurlait et mon mental disait mais non quoi, puis ça va et puis ils t'ont sauvé et ça en fait je m'en suis rendu compte un peu par hasard. En fait j'allais chez une copine chez qui j'étais jamais allée, mais qui habitait à côté de la Riboisière. Et bon, quand elle m'a dit qu'elle était, c'était une copine de travail, à côté de la Riboisière, bon, j'ai eu un petit quick dans le ventre, là, bon, mais voilà, sans plus, et puis bah voilà, on s'y rend avec une autre collègue de travail. Et là, en fait, elle se gare devant la Riboisière, et là, j'ai eu une crise de panique, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai eu une crise de panique, en fait. Mais vraiment, je respirais plus, je tremblais, enfin, ça a été. J'avais jamais fait ça, moi, j'ai pas compris. Hein. Surtout que je suis vraiment dans le... J'ai une éducation qui me demande à être dans le contrôle. Voilà, on retient, on s'exprime pas trop, tout va bien, on s'étend pas sur les malheurs. Je pense que j'aurais pu avoir cette capacité de contrôle, quoi. Et là, je l'ai pas eu. Là, ça a été le corps à parler, mais à hurler, quoi. C'était plus fort que tout, quoi. Et là, je me suis dit qu'il s'était passé quand même quelque chose à la Riboisière que j'avais pas compris. Que ça matchait pas quoi. Et bon après ça a été en travaillant, en discutant, en revoyant les scènes, en comprenant que c'était pas de façon volontaire comme tu le disais en introduction, c'est pas des actes, je me suis pas faite agresser, Mais c'est, je pense que c'est tout un mécanisme, un fonctionnement acquis. C'est un peu l'industrie, quoi. Enfin, surtout en plus, bon, dans ce service-là où ils ont personne, ils parlent pas aux gens. Hein, ils vérifient les constantes. Et ouais, où j'étais plus rien. J'étais un morceau de viande, j'ai envie de dire. Bon,
ouais. Voilà. Oui, tu t'es retrouvée complètement isolée dans cette salle de réveil. T'étais toute seule, en fait, finalement. Et puis, on te parlait pas quand on venait s'occuper de toi, quoi.
Non. Alors, j'étais pas... Enfin, c'était une salle commune, hein. Donc, ça aussi, c'est violent. Donc, on était dans des box. Toute la journée, j'entendais « Madame machin, réveillez-vous. Madame truc, réveillez-vous. » En plus, ouais, c'est un peu une ambiance, en plus, un peu mortuaire, quand même. C'est que des gens qui sont dans le coma. C'est que des gens qu'on est en train de claquer sur la joue pour les réveiller. Puis, dès qu'on sent qu'il y a une petite reprise, ils s'en vont. J'étais même pas seule, j'étais dans un box et toutes les deux heures il y avait cette personne qui venait me mettre des coups de poing dans le ventre que j'appréhendais, je la voyais arriver. Il y a plus une fois je l'ai même retenue, elle m'a dit je suis désolée, je dois vraiment le faire. Je lui ai pris le poignet, je lui ai dit non, j'avais peur en fait. Et elle m'a dit je dois le faire quoi, je tenez-vous, accrochez-vous, mais il faut que je le fasse. Et voilà, les visites à plusieurs, hein, et faut pas oublier, puis j'étais nue. Sur cette table, j'avais ma lèvre inférieure avait triplé de volume suite enfin, j'appelle ça les branchements qu'ils ont essayé de me faire. Je me rappelle demander les glaçons pour diminuer cet hématome qui était vraiment énorme et sucer en cachette les glaçons, quoi, tellement j'avais soif. J'ai atteint des niveaux de soif. C'est dur, mais j'aurais bu ma pisse, hein, vraiment. Hein, j'étais à deux doigts de le faire, quoi. Hein, je pouvais pas parce que j'étais. Mais c'est ça, j'avais même pas. Même ça, je veux uriner, aller à la selle. Je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. Les besoins primaires, pendant 48 heures, ont été.
Bafoués.
Ouais, non. Inexistant, quoi, inexistant. J'avais une poche pour l'urine. Bon, selle, il s'était rien passé, donc il n'y en avait pas. Manger non, boire non, dormir à peine parce que au milieu des bip bip toute la nuit, du gars d'à côté qui ronfle à tue-tête. Il y en a une qui a été sympa, qui est venue m'apporter, mais en pleine nuit, des boules-caisses.
Ouais, donc du coup, c'était vraiment l'horreur, quoi. Enfin, tu as vécu 48 heures où tu savais pas trop ce que tu voulais là. Et
sur le coup, ça a pas été... Enfin, je pense que si ça avait été l'horreur sur le coup... Je pense que j'étais dissociée, en fait. Je pense pas, je l'ai été. J'étais dissociée. Si tu veux, il n'y avait plus du tout de... Ça aurait été l'horreur en conscience. J'aurais hurlé. Enfin, j'aurais... qu'on soit d'accord, je sais pas non plus ma manière d'être, de m'imposer, de râler. Enfin, pas de râler dans ce sens-là, en tout cas, de d'imposer des choses ou de... Mais là, je pense que j'étais tellement dissociée que, en fait... tout se passait, puis il fallait me sauver, en fait. Enfin, voilà, tout était... Et puis, je pense qu'il y a aussi cette connaissance... Moi, je suis quand même d'un milieu médical, même par ma famille, de mon éducation. Voilà, on fait confiance aux médecins, la médecine sait. Tout était normal, en fait. Tout devait être comme ça.
Puis c'était une forme de protection, quelque part.
Et de protection... je sais pas, peut-être. Peut-être de tout lâcher pour laisser faire, peut-être. Et peut-être que c'est ce qui m'a protégée, parce que dans ces conditions-là, j'aurais pu en effet aussi craquer autrement, quoi. Là, j'étais qu'à moitié là, en fait. Hein. Enfin, ils ne me considéraient pas, mais je crois que moi-même, j'étais qu'à moitié là. Hein. Après, bon, j'ai pas assez creusé la mort imminente aussi. Hein. Je sais qu'il y a des sorties de corps, je sais qu'il y a des choses un peu plus... ésotérique peut-être. Voilà, moi j'ai une vision de la scène d'en haut, mais pas. C'est vrai que j'ai une vision de la scène par-dessus, quoi. Pas vraiment, pas toujours à ma place. Donc ouais, je pense que ça c'est un système de protection. Ouais.
Et finalement, t'as décidé de rester et de t'accrocher à la vie. Mais cet accouchement, ça a quand même été une épreuve terrible. Comment est-ce que tu t'es relevée de ce traumatisme ? Est-ce que tu as pu bénéficier d'un suivi après ? Est-ce que tu as été aidée, accompagnée ?
Ça a été très léger parce que à la maternité, donc bon, déjà le médecin qui te dit que bon, c'est ta faute, ça aide pas. Ensuite, ils ont quand même envoyé une psychologue qui est venue deux fois. Il m'a assuré un suivi sur 6 mois, je pouvais revenir. Voilà, sur 6 mois, je pouvais revenir voir la psychologue et parler de ce qui s'était passé. Le médecin, enfin un des gynécos, m'avait conseillé un psychiatre quand même. Donc, quand même conscient du traumatisme que tout ça peut engendrer, quelque part. Même si tout le monde a voulu l'amoindrir. J'ai eu deux visites de la psychologue pendant le séjour. Et puis ensuite, j'y suis pas retournée. Et personne ne m'a rappelé. Hein. Je pense que, bon, il y avait de ma responsabilité à y aller ou pas, mais je pense que quand après, c'est les lectures hein, qui m'ont informé, mais que quand on sort de ce genre de choses, je pense qu'on ne laisse pas partir les patients comme ça, quoi. Donc, non. Et puis, bon, moi, les premiers mois, j'étais fatiguée, mais normale. Puis, il fallait que je remonte quand même de cette hémorragie, hein, j'ai quand même perdu la moitié de mon sang. Hein, donc, j'avais une grosse souffrance au cœur. Voilà, il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de médicaments. J'ai repris le boulot. Et puis, on n'a pas été aidés. Mon fils faisait du reflux gastro-œsophagien. Et un gros reflux, et du coup, on ne dormait pas. Donc, ce qui a compliqué la situation, enfin bon, dans tout ça, plus la maternité, enfin voilà, le champoulement de la maternité, moi, je m'enfonçais, en fait. J'allais pas bien, j'avais des flashbacks, j'avais, sans le savoir, j'avais tous les symptômes du stress post-traumatique. Hein, dès qu'il y avait une ambulance, je pleurais, je pleurais tout le temps, il y avait des moments où j'arrivais pas à m'occuper de mon enfant. Donc, je me suis décidée d'aller voir la psychiatre. C'était une démarche pour moi hein, d'aller voir un psy, même si je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais ça. Mais ça a été quand même une démarche. Je l'ai fait, il avait quand même 8 mois. Hein, donc, c'est vraiment que je voyais que je ne m'en sortirais pas. Et cette psychiatre, en fait, travaillait avec eux. Et j'ai eu quelques rendez-vous, il ne s'est pas passé grand-chose, je racontais, je parlais. Et puis, un jour, à un entretien, elle revient en me disant « Bon, j'ai vu votre médecin, votre gynéco, il m'a parlé. Donc, en effet, vous aviez... il vous a déclenché, mais sur un col favorable, blablabla, blablabla. Bla, bla. Sur un col favorable, moi, ça fait ding. Et le col n'était pas du tout favorable le matin même. Elles n'arrivaient pas à attraper le col. Enfin, il était tellement antérieur, elles n'arrivaient même pas à le toucher. Enfin, là, j'ai compris qu'en fait, ils bossaient ensemble, quoi. Et même elle m'a dit, bon, écoutez, tout ce que vous ressentez avec tout ce vécu, c'est normal finalement. C'est normal que vous soyez comme ça. Je pense que vous voyez encore un peu. Et puis, dans 6 mois, si ça continue, vous revenez.
Ouais. Donc, voilà. Laisser aller complet.
Ce qui était, je pense, quand même non-assistance à personne en danger. Hein. À un endroit, j'étais quand même vraiment pas bien. Donc voilà, donc j'avais fait cette démarche d'aller voir un psychiatre. Un psy même tout court, quelque chose de psy, et je m'étais fait un peu remballer quand même, et du coup stop quoi, enfin ça s'arrête là. Et puis je voulais voir un psychiatre parce que toujours dans cette médecine, dans ce médical pur, voilà. Bon, les jours ont suivi, et puis c'est 6 mois après, bon, j'allais toujours pas bien hein, j'étais quand même alors je faisais bonne figure hein, ce modèle de tout va bien, je savais faire bonne figure, mais intérieurement, et puis une fois rentrée, et puis c'est surtout que j'ai eu aussi, enfin il y avait un stress post-traumatique, je ne mettais pas encore le mot, un symptôme de viol aussi. Mon mari ne pouvait plus me toucher, moi je ne pouvais plus me mettre nue. Alors je suis pas d'un départ, je suis pas du tout pudique. Il y avait un problème avec mon corps, quoi. Il y avait vraiment un gros gros problème. C'était ça aussi qui avait été déclencheur. Donc tout ça, évidemment, ne s'est pas arrangé en 6 mois. Moi je voulais plus la voir parce qu'il y avait eu un mensonge et que je me suis dit enfin on va pas avancer en fait si elle croit enfin je me confie à elle, je parle, c'est pas pour qu'elle aille demander vérification au médecin à côté quoi. Donc et puis c'est une collègue de travail qui me dit qu'elle va voir une psychologue elle et qu'elle l'aime bien et que voilà, je devrais essayer parce que malgré tout ça se voit quand même que je suis pas très bien. Même si je fais bonne figure et que je cache, je pense qu'il y a un seuil où en fait ça finit par se voir. Elle me dit de prendre rendez-vous et bon, psychologue, bof quoi, enfin psychologue quoi. Et en fait, elle va avoir l'écoute, elle aura l'écoute nécessaire pour m'accueillir, pour m'écouter, pour me soigner, pour sans faire de diagnostic par contre évidemment. Mais en tout cas, me fait de l'MDR pour diminuer le trauma. Parallèlement à ça, mon fils qui dort pas, donc quand même. Alors, j'accuse quand même l'accouchement en me disant que bon, il a eu quand même deux jours seul hein, dans un berceau avec 3 visites. Cette séparation, j'accuse un peu ça en me disant qui a un problème psychologique. Donc, je l'amène voir quelqu'un quand même, une pédopsie. Et donc, on va voir cette pédopsie. Et donc, je lui raconte évidemment l'accouchement. Puis, mon fils, il a un an passé. Voilà, c'est pas... Et c'est elle qui me parle de stress post-traumatique, en fait. Elle me dit, non, mais ça s'appelle un stress post-traumatique, ce que vous vivez. Et ça se prend en charge et vite. Bon, alors, la prise en charge venait de commencer. Enfin, ça a été en simultané, en fait. J'avais commencé un peu de séance de MDR qui a été assez bénéfique. Et puis, j'ai fait un peu de EFT aussi avec un médecin généraliste qui m'a quand même bien atténué le trauma. Mais c'est vrai que de mettre un mot dessus... C'est ça, il y a l'ignorance aussi de tout ça, en fait. Moi, j'ai lu beaucoup de choses, enfin, me sentant complètement décalée, enfin, à pas comprendre, à errer dans cet événement, en fait, constamment, jour et nuit, c'était obsédant. J'ai cherché, j'ai lu. Et c'est vrai que de savoir que ça existe, en fait, de mettre des mots, ça libère. Ouais. Ça aide, ouais, ça aide, ouais. Ouais, ben on comprend, en fait, on comprend, et oui, et ce vécu, ce ressassement d'idées, ces stress, ces cauchemars, tout correspondait, en fait, tout avait un nom, tout était connu, et ça rassure, il y a un endroit où ça rassure.
Donc du coup, t'as été quand même suivie, même si ça a pris du temps, ça t'a aidé?
Du coup, par moi-même, j'ai trouvé des issues. Et oui, je suis restée, même je la vois encore, hein, mais je suis restée avec cette psychologue qui m'a ouvert à d'autres choses. C'est elle qui m'a assuré le principal suivi. Ouais, ouais.
J'ai une question, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Voilà, le fait de devenir mère, c'est quand même un tsunami. C'est une vague, c'est énorme, c'est juste... c'est ta vie entière qui change. Enfin, comment tu as vécu ce raz-de-marée, le fait de passer de femme à mère d'un petit être dont il faut s'occuper. Tu n'es plus totalement seule, t'es un être vivant qui dépend entièrement de toi. Donc, comment tu as vécu cette vague et quel lien tu as pu tisser avec ton bébé alors que tu as été séparée de lui durant ses premières heures de vie?
Alors oui, je pense que c'est un tsunami en effet de base. Et là, avec ces conditions, ça a été compliqué. Moi, je dis que c'était ma fin du monde parce qu'en plus j'ai accouché. Enfin, je suis revenue de la maternité. Je suis revenue à la maternité, pardon, le 21 décembre 2012. Et c'était la grande date annoncée de fin du monde. Je ne sais pas si ça te parle, mais dans le calendrier Maya, là, enfin, tout le monde en parlait dans les journaux et tout, c'était vraiment la fin du monde, quoi, annoncée. Et moi, ça a été ma fin du monde, quoi, vraiment, ça a été la fin du monde, quoi, de mon monde en tout cas. Ça a été compliqué parce que j'avais très peur de retourner à la maternité. J'avais peur de lui en vouloir, en fait. J'avais peur de lui en vouloir, de cet événement, de me dire que c'était à cause de lui. Que j'avais vécu ce truc absolument horrible, quoi, cette descente aux enfers. Donc on m'a montée en chambre, j'étais dans ma chambre, et puis tout d'un coup, il y a une infirmière qui arrivait avec le berceau, avec ce petit truc-là, tout habillé, qui fermait les yeux. Je m'en suis approchée comme d'un objet bizarre, quoi, et puis toujours, enfin, j'avais cette peur de ce sentiment, quoi, de le rejeter, en fait. Et pas du tout, ça s'est pas créé, enfin, ça n'a pas eu lieu. Et puis, il a été hyper, hyper cool, quoi. Enfin, les 10 jours à la maternité, ça a été vraiment paisible. Il a été un peu en sourdine, quoi, je pense, quelque part. Non, ça s'est bien passé. J'ai eu un élan, je suis tombée amoureuse de lui. Ça a été, il y a quelque chose de fort qui s'est passé, quoi. De cette grosse interrogation, ça s'est envolé. Et puis j'ai pu l'allaiter un petit peu. Il lui avait donné à manger évidemment pendant 2 jours. Et ça, bon, j'ai appris après que c'était pas le biberon étant plus facile à téter. Et puis sur une mécanique de succion qui est différente, l'allaitement au sein était un peu compliqué, donc ça a été douloureux. J'ai demandé un tire-lait, voilà. Mais bon, en tout cas, il y avait un endroit où ça me déculpabilisait un peu. Et du coup, pendant 2 mois, j'ai maintenu ce semi-allaitement parce qu'il y avait beaucoup de nuits que je ne pouvais pas faire. Moi, j'étais trop fatiguée. Enfin, et puis beaucoup de moments où je vais me reposer. En l'allaitant, je pense que ça m'a un peu déculpabilisée. Lui, il a été cool. Il a été cool les premiers jours, les premiers mois. Et puis, c'est après que c'est déclenché son reflux. Et voilà, et puis moi, sur fond de psychologiquement, pas disponible du tout, quoi. Pas disponible, et même physiquement au début, faible, et puis prise dans cet événement, prise ces pensées omniprésentes, quoi. De ressasser l'événement en long, en large, de d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Voilà, et là, un bébé qui commençait à pleurer, qui commençait à pas être bien, à devoir gérer, à vouloir être toujours porté. C'est des bébés qu'on peut pas allonger, les bébés qui ont du reflux. C'est des bébés qui se réveillent. Alors bon, ça dépend, mais nous, ça a été toutes les heures, voire toutes les 20 minutes. Il y avait des nuits, ouais. On dormait pas. On allait travailler. Mon mari venait de se réinstaller. Il était hyper occupé. Et je pense qu'il y avait aussi un peu de déni aussi de la situation, enfin une forme de fuite en tout cas de ce qui s'était passé, parce que lui, il n'a pas eu l'occasion de le vider, quoi, tout ça. Donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué. J'étais effrayée, quoi. Je savais pas quoi faire. Et puis lui, il était confrontant par ce manque de sommeil, par des crises, tout ça. Ça a été un peu une bataille quand même, un peu plus tard. Disons que je pense que le lien s'est créé au début, le lien s'est créé, contrairement à ma peur de départ, mais il était fragile, il était très fragile. Moi, je n'avais pas toujours la force de m'en occuper, mon mari rentrait tard, je me rappelle de soirées où je lui donnais, il arrivait, il passait la porte et moi, je m'enfermais dehors, loin, je ne voulais plus entendre un bruit, un cri. J'étais seule aussi dans tout ça, j'étais seule parce que dans ma famille, dans notre famille, c'était tout allait bien maintenant, la phrase classique, que le bébé va bien, tout va bien, et c'était ça, le bébé allait bien, même si lui a eu une souffrance hein, quand même aussi à la naissance, le bébé allait bien, moi finalement, il n'y avait plus de soucis. C'était reparti, quoi. Tout va bien. Donc, je me suis sentie seule, vraiment seule. Et puis, comme tout ce qui est confrontant, on trouve d'autres idées, d'autres solutions. Moi, je partais sur un modèle éducationnel assez strict aussi. Ça passait pas, quoi. C'est là qu'il était confrontant. Ça passait pas. Donc, j'ai dû changer de fusil d'épaule. Et puis comprendre d'autres formes d'éducation, d'autres formes de communication, d'autres formes de gestion, d'autres formes de lien aussi. Voilà. Donc le lien s'est créé petit à petit, je dirais, il est encore en train de se créer, je dirais.
Ah oui.
Non, mais il reste, enfin, je pense qu'il reste quand même des traces, forcément, de tout ça. Il reste des traces. Alors, c'est un sujet dont je parle avec lui, hein, il le sait, on en a parlé plusieurs fois. Il a maintenant bientôt 10 ans. Donc, en plus, en fonction de son avancée, les questions sont différentes aussi. Donc, voilà, c'est un sujet qui est pas tabou et je voulais pas que ça le soit. Il est au courant, mais oui, il y a eu des manquements, hein, c'est sûr, c'est certain. Il y a eu des manquements. Donc voilà, donc on rattrape aussi des choses.
Et suite aux violences gynécologiques que tu as vécues, est-ce que tu as pu entreprendre des poursuites et comment tu as pu réussir à te reconstruire?
Alors, comme je disais, il a bientôt 10 ans. Et c'est vrai que c'est une question qui me trotte encore. J'avais rien entrepris, mais depuis 10 ans, c'est vrai que la question revient de façon récurrente des fois. Et là, c'est l'étape des 10 ans et de la prescription. Donc là, ça me titille et je ne sais pas. Ma réflexion n'est pas encore aboutie. Mais non, je n'ai pas entamé de poursuite. J'avais contacté pas mal de personnes pour m'aider, pour m'entourer, pour comprendre ce qui était faisable, quel recours. Dont le CIAN qui s'occupe des violences liées à la maternité. Le mieux aurait été d'écrire des courriers, j'en avais pas la force, j'arrivais pas à écrire sur ça, j'arrivais pas du tout à écrire. Puis le temps est passé, ça se remet. Après, de manière personnelle, je me suis reconstruite par les recherches, en fait, par toutes ces recherches que j'ai faites, les lectures, ce que je disais tout à l'heure, que savoir que ça existait. Il y a une personne qui s'appelle Marie-Hélène Lahaye qui écrit beaucoup sur le sujet, et ces lectures, elles m'ont éclairée. Que de rester dans des salles éclairées au néon pendant des heures, pas manger pendant 48 heures, c'est des supplices. C'est des supplices, quoi. Donc, du coup, le sens de de stress post-traumatique que je trouvais dur. Non, en fait, prenez sens que c'est des conditions de vie où il y a un trauma. Plus évidemment, se voir mourir, risquer de mourir, tout ce moment de autour de la mort. Voilà, tout correspondait, ça existait, ça avait été vécu, c'était dénoncé en fait, déjà, c'était dénoncé. De savoir que ça existe, je dirais, puis d'avoir trouvé des réponses sur tout ça, et des rencontres aussi qui n'avaient pas les mêmes discours que bah, non, on recommence, si on fera la même chose la prochaine fois. Voilà, des choses où des gens m'entendaient, me comprenaient, ne serait-ce qu'un peu d'empathie en fait sur la situation. À chaque fois, la situation c'était bah, non, c'est normal, c'est tout va bien, c'est tout ça. Donc, je dirais que en tout cas, moi, j'osais pas me dire qu'il s'était passé quelque chose d'horrible de et terrible. Quoi. Quand on lit, il ouais, y a une genre de validation, validation dont j'avais besoin, en tout cas, peut-être que pour d'autres c'est plus clair, mais moi j'avais besoin de cette validation, qu'on reconnaisse que j'avais subi des choses qui marquent, qui marquent. Voilà, après, ce qui m'a aidée, je pense que c'est d'avoir ce bébé, hein, d'avoir fait dans ce choix d'être restée, et ben, c'est d'avoir ce bébé, et dans le sens où si j'avais voulu rester pour lui, il fallait aussi que je sois... Bah, que ce soit pas pire en fait. J'avais voulu rester pour lui, donc il fallait que je sois à la hauteur, quelque part. Beaucoup de renseignements aussi sur l'accouchement tout court, pas que sur ces violences, mais sur l'accouchement, comment il peut se passer. Et ce que je disais au départ, c'est que moi, la vision de l'accouchement que j'avais, c'était une vision d'horreur, quoi. Hein. On pousse, ça fait mal, on hurle, on souffle, tout se déchire. Enfin, c'est le drame, quoi. Et avoir lu d'autres récits, que ça pouvait se passer autrement, que tout ça, de comprendre des mécanismes de fonctionnement différents de ce que je connaissais, de m'ouvrir à d'autres choses, ça aussi, je pense que ça a été réparateur. Et puis évidemment, le plus réparateur de tout, ça a été d'accoucher finalement une deuxième fois, ce qui était ma pire crainte et qui m'a libérée. Ouais.
Oui, parce qu'avec ce que tu avais vécu, c'était forcément... un stress supplémentaire que d'avoir une deuxième grossesse, je suppose. Mais du coup, cette annonce, cette arrivée d'une deuxième grossesse, ça a été le point de départ de nombreux questionnements autour d'un accouchement du coup, qui serait plus naturel. Du coup, quelles ont été tes découvertes et qu'est-ce que tu as mis en place pour vivre différemment ce deuxième accouchement ?
Alors... Ouais, comme tu dis, accoucher une deuxième fois, pour moi, c'était inenvisageable. Ça a été très dur, ce dilemme, parce que j'envisageais pas un enfant unique, vraiment pas. On est deux familles nombreuses. C'était terrible pour moi, sans raison, hein, mais c'était pas possible. Et accoucher, c'était pas possible. Donc, surtout avec ce qu'on avait dit. Donc, ça a été un gros dilemme. En plus, mon mari était assez demandeur. Ça a été un vrai combat, ça, à l'intérieur. J'ai pensé à l'adoption, j'ai pensé... Enfin, plein de choses, mais surtout juste à accepter en fait que ce sera un enfant unique, quoi. Voilà, ça a été un cheminement aussi. Et puis bon, bah le temps passant, et puis force de toutes ces découvertes aussi, de toutes ces choses, j'ai ressenti une envie, j'ai ressenti une possibilité. Et donc cette deuxième grossesse, elle a été voulue, hein. C'était pas un accident. Ça a été, je me suis sentie prête à recommencer, et ça a été 5 ans et demi après. En plus, ça a été compliqué pour le coup, cette fois-ci, ça n'a pas été aussi rapide que la première. J'ai eu des problèmes de... Le scandale du lévothyrox, c'était en 2017. Et moi, j'ai ce traitement pour une hypothyroïdie. Donc, c'est un changement, en fait, pour remettre dans le contexte, il y a eu un changement de formule du médicament, mais sans l'annoncer. Et ça a été même plus insidieux que ça, c'est que c'est moi qui avais fait l'annonce dans ma société, c'est moi qui avais, je travaille sur des sites internet, c'est moi qui avais fait l'annonce du changement du lévothyrox, mais on parlait que du changement de boîte, de packaging. Mais en fait, la formule avait changé, ce qui a entraîné des complications chez beaucoup de personnes, parce que c'est du micro-dosage, et en fait, ça a entraîné des dérèglements. Et donc moi j'en ai subi les frais, c'était l'été 2017, et au milieu de 10 000 effets secondaires, des fausses couches. Donc 2-3 fausses couches, et voilà, et bon, déjà que c'était quand même un sujet compliqué pour moi, et je me suis dit, bah, bon, on laisse tomber, en fait. Enfin, voilà, moi si j'avais accepté d'avoir un enfant, là ça prenait pas, ça marchait pas, c'était peut-être pas le bon moment, c'était pas l'idée... Et on a laissé un peu tomber le truc. Et puis je suis tombée enceinte. Donc, c'était là. Et une fois que c'était là, il allait falloir que ça sorte. Je pense que le déclic s'est fait du deuxième. J'avais témoigné pour une journaliste qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le livre noir de la gynécologie ». Elle avait pour ce livre mis les dossiers des différentes personnes témoignantes. Et donc, moi, elle m'avait rappelé pour me dire que ouais, les doses d'ocytocine avaient été vraiment des doses de cheval, en se demandant même si mon enfant était bien, s'il n'avait pas de problème psychologique, physique, parce qu'il y avait eu des tracés de souffrance fœtale. Donc, ça fait peur, mais en même temps, ça m'a hyper déculpabilisée parce que moi je vivais depuis 5 ans avec l'idée que c'était tout pareil, qu'on ferait pareil la prochaine fois et qu'il risquait de se passer la même chose. Là, s'il y avait eu des déclenchements, que le déclenchement avait pu provoquer ça, ce qui confirmait finalement ce que je pensais, voilà, peut-être que sans déclenchement, on pouvait envisager les choses différemment. Ça a été le fruit de différentes lectures aussi, d'accoucher sans déclenchement, d'accoucher sans péridurale, du phénomène de l'accouchement, que le corps est capable d'accoucher en vrai, puisque en fait il est fait pour ça, de reprendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir, que la femme est capable d'accoucher, qu'on est là depuis des milliers d'années, parce que juste par ce principe-là en fait, que le corps accouche, le corps de la femme est fait pour ça. Il est fait pour ça, et sans médicaments, sans rien, ça se passe en vrai. Donc je me suis accrochée à ça. À cette puissance, je dirais, parce que c'est ce qui s'est passé, à cette confiance, voilà, que le corps est capable en fait. Je pense aussi que j'ai eu la chance que pour le premier, la péri a pas pris complètement, elle a pris que d'un côté, la péridurale, et j'ai eu des douleurs des contractions, j'en ai parlé, mais vraiment des douleurs atroces, quoi, vraiment atroces. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire. Enfin, voilà, que les douleurs de contraction sont connues pour faire très mal. Donc, de toutes les façons, ça ne pouvait pas être pire. J'avais accouché par voie basse. Donc, la péridurale, elle m'avait fait mal pendant des mois après. J'avais eu une insensibilité du côté où ça avait pris. J'ai eu mal au dos pendant des mois. Voilà, je me suis dit, de toute façon, en fait, ça ne pourra pas être pire, quoi. Donc autant le tenter. Donc, cette grossesse, j'avais les lectures faites, mais là, ça devenait urgent de trouver des vraies solutions. Je me suis... En fait, je suis partie du postulat, j'avais accouché en maternité privée, qui nous a coûté cher, parce qu'on est resté quand même 10 jours. Et je me suis dit que là, j'allais accoucher en hôpital, de toutes les façons, parce qu'en hôpital, les transferts se font mieux quand même. Moi, le transfert a été très, très long. Donc les transferts sont mieux, c'est l'hôpital, donc ils peuvent transférer le bébé. Donc voilà, je voulais pas retourner dans cette situation de maternité où ils font tout pour que tu reviennes. Et je me suis dit, tout l'argent que j'ai investi pour ce premier accouchement, je vais l'investir dans des accompagnements, divers accompagnements. Donc je fais beaucoup de choses, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'aptonomie, j'ai fait du champ prénatal, enfin tout ce qu'ils me disaient, j'ai essayé. Et puis je me suis formée auprès de sages-femmes qui accouchaient à domicile. Ça m'a jamais traversé l'esprit, enfin ça je voulais pas. Il y avait quand même un petit pourcent de chance que ça se reproduise quand même. Je voulais être près d'un plateau technique, je ne l'ai pas entrepris. De toute façon, personne, avec mon passif, personne n'aurait voulu m'accoucher chez moi. Et ça a été compliqué aussi avec ce passif. Qu'on m'entende, qu'on accepte que je ne veuille pas de péridurale ou des choses comme ça, c'était inentendable. Plus, évidemment, j'ai refait un diabète gestationnel et rebelote, rentrer dans le cercle du diabète, de la case malade. Donc là, je trichais. Je trichais, je mettais des normes normales partout. Enfin, voilà, j'avais un diabète hyper équilibré. Pas de déclenchement en vue, mais on m'avait dit quand même. Enfin, le premier hôpital où je suis allée, où j'étais allée voir, soi-disant, un gynéco qui était compréhensif, m'avait dit qu'avec le diabète, c'était impossible que j'accouche dans une salle, ne serait-ce que d'une salle nature, que j'ai pas de péridurale, que tout ça, c'était pas possible, qu'il faudrait sûrement redéclencher même et tout. Donc ça m'a appris aussi à dire non, parce que j'ai rencontré des gens qui obéissaient encore à leur savoir médical, à leur process, à leurs normes, et pas à moi, quoi. moi, ce que j'avais vécu et la gravité de la situation qui s'était produite et les séquelles que ça avait engendré.
Un discours très médicalisé quand même.
Et toujours très médicalisé, ouais. Toujours.
Alors que toi, tu aspirais à quelque chose de naturel, sans péridurale, sans toutes ces machines.
En fait, moi, j'avais appris que la péridurale entraîne un ralentissement, le ralentissement entraîne le déclenchement et entraîne, enfin, même sans parler de déclenchement au départ, hein, mais du coup, on aide parce que ça ralentit. Enfin, voilà, c'est des engrenages, tout ça. Hein, on met un petit truc qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et qui altère toute la mécanique absolument magique et hormonale et prévue de l'accouchement. Ouais, c'est ça, enfin, je trouve que l'hôpital, et j'en ai quand même fait trois, l'hôpital, il n'est pas ouvert à ce genre de discours, surtout sur un cas pato comme moi. Moi, j'avais du diabète, bon, et puis j'avais un passif. Enfin, je pense que c'est le pire cas d'école qu'on peut trouver, quoi. L'hémorragie qui déraille. Il y a des petites hémorragies, mais l'hémorragie, la vraie hémorragie, je pense qu'il y a, c'est le truc qu'on n'a pas du tout envie de rencontrer, quoi.
Et comment s'est passé ton deuxième accouchement, justement ?
Alors, mon deuxième accouchement, bah, il n'y a eu aucun saignement déjà. Ça, c'était. C'était quand même ce que j'avais besoin de me prouver. Donc voilà, j'ai eu la chance parce que malgré tout, à la maternité de Nanterre, on reste dépendant des gens qu'on rencontre sur le jour où on vient accoucher. En fait, la veille de la... Enfin, quand j'ai perdu les os, plutôt, bizarrement, j'ai été d'une... La grossesse a été quand même compliquée. Hein. Elle a remise en question. Elle a refait vivre des vécus. Elle a des sensations similaires, des épisodes, un procédé, un parallèle constant, quoi. Hein. Et puis dans cette recherche de solutions, des jours qui avançaient, et puis que voilà, comment ça allait se terminer, d'être dans un truc sans issue. Le bébé était là et voilà. Donc la grossesse a été quand même, je pense, émotionnellement assez lourde. Après, je l'ai mieux vécu que la première. Je l'ai vécu plus en conscience que la première. La première, c'était j'avais un bébé parce que j'étais mariée, parce que c'était comme ça qu'on faisait, et puis que je continuais à travailler. Et voilà, c'était accessoire. Là, je lui ai donné beaucoup plus de place. Mais quand même, sur un fond émotionnel lourd. Et après, donc j'ai perdu les os vers 17h. J'ai appelé mon mari, mais hyper détendu. En fait, je crois que j'aurais accouché dans la voiture. Enfin, ce qui est le pire stress de la plupart des gens, je pense, c'est accoucher dans la voiture. Alors que moi, c'était mon rêve, presque. Donc, accoucher avant d'arriver, tu vois. Et puis, que si jamais, du coup, ça déraille, être accueilli à l'hôpital et puis qu'on prenne les mesures nécessaires. Donc pas du tout. Là, j'ai eu un relâchement total. J'ai été en confiance... Je l'ai dit à mon mari que j'avais perdu les os, donc il a commencé un peu à stresser, à me dire « j'arrive ». Je dis « écoute, franchement, ne presse pas, ça va, on rentre à la maison ». Voilà, donc on est rentré, il est rentré, on a mangé, on a fait des photos, on a préparé mes dernières affaires, moi j'étais assez prête. On a amené mon fils chez ma sœur. Voilà, en fait, je repoussais, quoi. Je savais qu'une fois qu'on serait à l'hôpital, on ne gère plus grand-chose, hein. Donc, je repoussais quand même. Bon, on est arrivé vers 11h, minuit, je pense, à l'hôpital. Alors, j'avais perdu les os à 5h. Et bon, le travail n'avait pas commencé. C'était un peu... Enfin, ouais, il y avait des choses. J'étais obligée d'avoir un cathéter quand même. Voilà, il y a des petites choses qui m'ont quand même... Qui ont été douloureuses, quoi. Enfin, qui m'ont fait... qui ont été douloureuses. J'ai pleuré. Il y avait des petits flashbacks, quoi. C'était un peu dur. Mais bon, le travail n'avait pas commencé. Et puis, quand la poche des os s'est percée et que le travail ne commence pas, on te dit qu'il y a un risque d'infection et qu'on peut déclencher, quoi. Donc là, c'est le gros mot. Donc, bon, on m'a mis en chambre en attendant. Puis on m'a dit, si ça commence, vous nous appelez surtout. Et puis, inconsciemment ou pas, j'en sais rien, parce que c'était pas conscient, mais le travail a commencé sans que je me rende vraiment compte finalement. Je pense que je m'attendais à des douleurs terribles et ça a été assez doux, et puis en fait le travail a commencé et a continué. On était en chambre, j'ai laissé faire, je me suis même pas rendu compte que c'était parti, quoi. Et après, prise dans la spirale du truc, voilà, il n'y a plus rien d'extérieur qui rentre. Ça m'a même pas traversé l'esprit de les appeler, quoi. Et du coup, bah, j'ai fait tout le travail toute seule avec mon mari. On était super, c'était top, c'était incroyable. On était dans la pénombre, dans notre chambre. On appliquait ce qu'on avait vu, appris, mais de façon hyper fluide, hyper douce. Je sais que j'ai eu mal, hein, parce que je me rappelle quand même lui avoir dit que je te préviens, c'est le dernier. Donc je pense que voilà, y a ces rappels de phrases, tu vois, mais il y a aucune sensation physique avec ça, quoi. C'est des douleurs qui n'ont pas du tout. Alors que les douleurs avec le déclenchement, c'était ardos. Voilà. Et puis bon, bah la poussée était là. Et là, elles ont fini par venir. Et le problème, c'est qu'elles sont arrivées et j'étais en train de pousser.
Donc, donc t'étais vraiment sur la fin, quoi. T'avais tout fait toute seule, quoi.
J'avais tout fait toute seule, ouais. J'avais tout fait toute seule et de manière tout à fait fluide, hein, parce qu'elles sont arrivées vers 5 heures. Voilà. Donc j'étais en chambre à minuit, ça a dû commencer vers 1 heure peut-être, et puis à 5 heures j'étais en train de pousser. Donc j'étais en train de pousser. J'étais en train de pousser au-dessus des toilettes. Parce que ne nous leurrons pas, il sort d'autre chose. Et bon, bah, je savais que c'était normal de procéder ainsi. Mais bon, je suis arrivée, j'étais sur les toilettes. Là, c'était reparti pour un tour. Discours infantilisant, mais vous êtes sur les toilettes, mais vous êtes en train de pousser, mais vous voulez que votre bébé il tombe dans les toilettes, mais vous n'allez pas accoucher là. Bon, t'es quand même en train d'accoucher, enfin, tu t'es construite, t'es dans une bulle, quoi, t'es vraiment, enfin, il se passe un truc pendant l'accouchement, t'es ailleurs, quoi, enfin, t'es en connexion intense avec ton corps, avec le bébé, t'es partie dans un autre monde, en fait. Et là, branle-bas de combat, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Et puis, tout leur stress de « Oh pétard, c'est la cliente avec 3 points rouges, 3 alertes, celle qu'il faut faire attention, faut pas louper, voilà. Parce qu'ils voulaient me faire la péridurale, alors que je voulais pas, mais c'était fortement conseillé, donc je pense qu'ils auraient bien insisté. Je devais avoir tous les branchements au cas où pour pouvoir piquer vite, pour bon. Donc je devais au moins avoir le trou de la le cathéter qui sortait de la péridurale. Donc grosse panique, quoi. Donc fallait aller à leur salle de travail. Enfin, elles ont essayé, comme j'étais en train de pousser, elles ont accepté une poussée sur place. Mais en fait, elles n'étaient pas en position qui leur plaisait. Elles étaient enfin, ça leur allait pas. Elles ont dit non, on va en salle de travail. Bon, j'avoue que mon mari n'a pas suggéré, je pense, le moment, enfin, su dire non. En plus, c'est vrai qu'on saigne un petit peu. Enfin, c'est normal d'avoir des saignements avec le bébé qui sort. Lui, je pense qu'il a commencé à paniquer. Moi, j'étais pas, j'étais ailleurs. Et donc, elles m'ont trimballée. On a traversé tout l'hôpital. Donc, je pouvais pas m'asseoir parce que j'avais la tête entre les jambes. À 4 pattes sur un siège roulant, les fesses en l'air. Pour rejoindre la salle de travail, voilà, donc ce qui est tout à fait respectueux de l'acte, hein, en lui-même. C'est quand même un acte intime, hein, ça se passe sur des zones intimes, c'est des ouvertures de sphincter, hein, même finalement pour parler comme le reste. Je veux dire, c'est des choses qui se font dans l'intimité en vrai. Et là, on est sous les éclairages à 15 personnes. À 15 personnes en plus. Donc, elles n'avaient aucune donnée. J'avais aucun monito. J'avais rien. Enfin, elles n'avaient rien. Donc, elles me prennent un monito. Oh là là. Et là, ça recommence. Ça ne va pas. Le bébé ne va pas. C'est l'horreur. Ah non, non, mais là, il faut pousser. Là, on appelle le médecin. On met les spatules. Ben, voilà, on commence à rentrer dans une bulle de stress. Pas possible. En fait, elles prenaient mon pouls à moi. Elles m'ont forcément installée en position gynécologique. J'avais plus de résistance, en fait. J'étais en train de pousser. C'est le moment où il s'est passé quand même le travail. On est plus faible. On est censé être loin dans sa tête. J'avais pas la force de dire non seule, en fait. De maintenir de combat. J'avais l'accouchement en cours et puis me battre pour des principes, quoi. Donc elles m'ont allongée sur cette table d'accouchement, les 4 fers en l'air, et puis là ça a été compliqué parce que la poussée était fichue, j'y arrivais pas, ça a duré une heure de poussée, c'est très long, c'est très long à hurler, à pousser comme une débile, ce que je voulais pas, parce que dans ce que j'avais vu, après on pousse pas en fait, le bébé sort. Donc à devoir pousser, à pousser. Bon, bah, finalement, on le fait, quoi. Enfin, on se sent pris dans cette spirale. Voilà, il m'a menacé, on va appeler le médecin, là, ça va pas du tout. C'était dur, quoi. C'était là aussi, c'était encore violent, finalement. C'était violent parce que ça, cette phrase de le bébé va pas bien, et ben, en fait, avant d'être mère, enfin, on est déjà mère, quoi. C'est pas parce que le bébé est là, on est déjà mère. Et je me rappelle, pour le premier, c'était pareil. Quand on m'a dit le bébé est pas là, mais j'ai tout donné. J'aurais pu tout déchirer, tout péter, tout lâcher. C'est ce qui s'est passé derrière, mais j'aurais pu tout lâcher pour qu'il sorte vite, quoi, pour qu'il aille bien, en fait. On est déjà en tout pour son enfant, quoi. Donc cette phrase, elle fait mal, elle est violente et elle est pas du tout dans la bonne continuité de l'événement, quoi. Elle met tout de suite en stress et dès qu'il y a du stress, il y a tout qui s'arrête, quoi. C'est un jeu hormonal qui est différent. C'est plus ce qui était prévu. Donc voilà, bon, ça a duré une heure, il est sorti, ça m'en a cassé le coccyx quand même. J'ai été pas mal immobilisée après. Mais le lendemain, ben d'abord j'étais là, ce qui était extraordinaire pour moi. J'avais pas eu de péridurale, j'avais pas eu de choses. Il y a juste un truc qu'ils ont mis quand même de l'ocytocine à la sortie du bébé, ce qui est une étape indispensable dans les procédés d'accouchement. Et ça, vraiment, j'ai pas pu dire non. Mais j'ai pu quand même leur demander. Enfin, j'ai quand même pu négocier des choses. J'ai négocié que je leur ai dit, écoutez. Les saignements, ils arrivent quand le placenta s'en va. Donc, on va laisser le placenta sortir tout seul. Parce que normalement, il tire dessus. Donc, ça, elles me l'ont accepté. On a pu attendre un peu avant de couper le cordon. Voilà, elles m'ont accepté certaines choses. Par contre, ça, avoir l'ocytocine à la sortie du bébé, ça, c'était pas négociable. Donc, bon, ça a été le seul produit injecté. Et voilà, j'ai vu la différence. La différence était flagrante, mais d'être bien, quoi, d'être bien le lendemain, d'être même malgré cette très forte douleur au coccyx qui m'empêchait de m'asseoir, d'être physiquement et psychologiquement bien, et puis dans un état de symbiose avec son bébé complètement différent, quoi, complètement différent. Je l'ai allaité, et voilà, et puis surtout j'étais informée, j'étais alerte que non, pas de biberon, ils ont voulu le nourrir parce que pareil, diabète, ça veut dire qu'il faut aussi le nourrir. Faut quand même qu'il ait une dose complémentaire de lait. Sauf que bah là, moi je voulais pas. Je voulais pas qu'il soit nourri au biberon. Je voulais pas qu'il ait une autre tétine. Voilà, il y avait des choses sur lesquelles j'étais informée et qui étaient plus négociables.
Voilà. Donc, oui, c'est le fait d'avoir été mieux informée parce que tu t'étais renseignée. Ouais. Du coup, t'étais beaucoup plus prête pour ce deuxième accouchement.
Ouais, plus prête. Et puis surtout, j'ai touché à des choses intérieures, vraiment cette confiance. J'ai senti, je suis partie accoucher de façon vraiment sereine, vraiment en m'en remettant à la vie, en fait. Vraiment, je sais que il y avait un risque. Je me rappelle avoir fait le tour de mon appart en me disant que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais. Voilà, en remerciant de cette vie de d'avoir habité là, d'avoir vécu ce qu'on avait vécu, sans savoir si je reviendrais, d'avoir dit encore au revoir à mon fils, mais pas dans une panique, dans une acceptation de ce qui allait se passer, totale, voilà, dans une confiance totale, vraiment, en mon corps et en la vie. Et pendant l'accouchement, pareil, c'était d'une sérénité et du coup d'une puissance qui a été... Je ne sais pas si j'ai encore les mots pour décrire cette sensation de connexion à plus grand, quoi, à vraiment plus grand. À son corps qui est capable de faire des choses dingues, de s'élargir, quoi, de s'ouvrir, de cette cascade, ce cocktail hormonal qui prévoit tout, quoi. Tout est prévu à millimétré, enfin timé à la perfection, et que devant ça, on est obligé de s'incliner, en fait. On est obligé de, on peut pas rajouter des choses, on peut pas rajouter et la péri et compter que là ça fait 3 minutes et que ça devrait en faire 2 et que le client d'après arrive et que voilà, ça a pas sa place, en fait. Ça a pas sa place. Deuxième accouchement, si on enlève la fin qui a été remédicalisé, re-sous le stress. Et finalement, c'est le stress des autres qu'on prend. Hein. C'est leur stress, c'est le stress du personnel médical qui je comprends, hein, qui est, j'avais un dossier coton, qui ça fait peur, et qui panique, qui te transmet ce stress en fait. Mais tout le reste, ça a été incroyable. J'ai vécu vraiment deux extrêmes, quoi. Ouais, deux extrêmes. Ouais.
Et alors, il me semble que tes expériences de la maternité t'ont fait t'ouvrir à une certaine forme de spiritualité et d'ouverture d'esprit, ouais, à des approches, on va dire, moins classiques. Est-ce que tu peux nous en parler et nous partager un peu ce que tu as appris ou mis en place personnellement ?
Oui, comme je te dis, j'ai touché vraiment à quelque chose de plus grand, ça en fait partie. Hein. Ça a été compliqué. Moi, je suis d'une éducation catho, hein, classique, catho, et puis quand même, alors, peu pratiquante, mais quand même une spiritualité, une foi. Ça a été quand même assez touché du doigt, hein, parce que j'ai vu la Vierge, hein, vraiment, j'ai eu cette lumière, cette image de la Vierge. Donc, bon, je ne sais pas si c'est en lien avec mon côté, cette éducation, ce savoir, si je fabule, si je ne sais pas, je ne saurais jamais. Mais il y a eu cette Vierge qui était là. Et il s'est trouvé que j'ai accouché dans une maternité catholique. Ouais. Donc, ce qui était rassurant pour moi. En plus, ça apportait un cadre supplémentaire. Et que à la maternité, ça s'est pas bien passé. Enfin, il y a des sœurs, hein, qui travaillent à la maternité, mais qui ont été absolument horribles avec moi. Qui me bousculait, le matin, il fallait que je me lève, il fallait que j'ouvre les volets, il fallait que je fasse limite le ménage, que je prenne ma douche, je revenais quand même d'un épisode compliqué, je pense qu'elles étaient au courant, qui fait que je m'occupe de mon bébé, et voilà, de façon brutale, hein, ça continuait. Qu'est-ce que vous faites, votre bébé, là, il va pas se faire tout seul, il va changer, il va prendre son bain, en plus, on était à Noël, j'ai pas eu le droit de descendre à la messe de Noël, qui est quand même, s'il y a bien un truc qu'on fait quand on est catho, c'est quand même la messe de Noël. Là, il y avait quand même la messe dans la clinique, et elles ont pas voulu que je descende. Et bon, c'est mon interprétation, mais pour moi, ça faisait tâche. C'était une maternité assez chic, et j'étais peut-être pas dans un état qui était souhaitable. Mais bon, on est dans une maternité, il y a des fauteuils roulants, enfin je sais pas, c'est le principe pour moi. Donc il y a tout ce côté catho, incarné, hein, finalement, sur Terre, que j'ai vraiment repoussé. L'église, tout ce qui tourne autour de ça. Et par contre, de l'autre côté... c'est créé cette connexion que j'ai eue, ce choix que j'ai fait, dont je me souvenais quand même, cette connexion à plus grand. Alors Dieu, il y a même plus de Dieu en fait. Enfin, c'est un truc plus du catholicisme, quoi. C'est un truc tellement plus grand, tellement plus fort. En la vie, ouais, la vie peut-être juste une foi en la vie dans son plus grand, dans son... Il y a Dieu, je garde une attache à Dieu quand même, enfin un Dieu en tout cas, quelque chose sur lequel on met le nom qu'on veut, quoi.
Je suis totalement d'accord avec toi, ouais.
Pour le coup, ça a été touché une fois, en passant à côté de la mort, quoi. Enfin la croisant, hein, vraiment. Et puis une deuxième fois, avec cette confiance totale, en étant prête à... Ouais, j'étais prête à partir mourir, en fait, cette fois-ci-là. J'y croyais pas, quoi. Je m'en remettais à ce qui allait se passer, et en ayant totalement confiance, voilà. Et puis, après, par d'autres choses, parce que j'étais cartésienne, tout ce monde un peu énergétique, ésotérique, moi, c'était loin, hein, j'avais même pas envie d'entendre parler de ça, enfin, j'y croyais pas, il fallait voir un psychiatre, pas un psychologue, quoi, et m'ouvrir, ça a commencé par la psychologue, finalement, qui, elle aussi, m'a ouvert à certaines choses, certaines façons de penser, des trucs auxquels, quand on touche, quand j'ai rencontré les problèmes pathologiques de mon fils, puis le second a fait pareil, un gros reflux, qu'on dort pas, qu'on est au bout de sa vie, on est prêt à tout, en fait. On est prêt à tout, donc à des solutions beaucoup plus bizarres, qui sont en plus pas très invasives pour le coup, hein. C'est des discussions, c'est des mains qui sont posées, c'est des choses qui sont pas, on risque, il y a un coût financier, mais il n'y a pas de coût autre. bon, on est prêt à tout essayer, et puis on essaye, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des améliorations, du moins ça ouvre l'esprit, ou ça connecte à d'autres choses, ça connecte à l'autre, ça connecte à soi. Petit à petit, oui, je me suis ouvert à d'autres choses. Ouais, ouais, à l'énergétique, par exemple, au corps dans sa globalité, quoi, de manière plus holistique, à la méditation, après j'ai fait des milliers de choses, hein. Ça n'a pas toujours marché d'ailleurs, hein. J'aime bien fonctionner en essai, et puis enfin j'ai besoin d'essayer, j'ai un esprit un peu chercheur, où j'ai besoin d'essayer, et puis je me fais mon propre avis, donc il y a eu des tests, il y a eu des choses qui m'ont prouvé qu'il se passait autre chose, voilà, qu'il y avait d'autres choses que ce monde matériel.
Oui, je vois. Et avec le recul que tu as et les années que tu as de plus, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer pour ta première grossesse et ton premier accouchement, ou bien est-ce que tu perçois ce qui t'est arrivé comme une forme d'expérience qui a aussi été à l'origine de ta résilience?
Alors, bah, si on me demande si je voulais changer quelque chose, j'ai envie de dire tout. J'aurais voulu tout changer. Je veux dire, c'est un accouchement que je souhaite à personne. Ça a été la catastrophe. L'événement en lui-même a été tellement traumatique, et ce qui s'en est suivi, on pourrait dire que tout devrait être changé, quoi. Après, j'ai envie de dire rien aussi, parce que ça a été le début d'un chemin initiatique, en fait. Ça a été le début de ce que j'ai envie d'appeler une renaissance et de ma transformation. Ça m'a amené vers d'autres choses. Ça m'a fait changer ma façon de voir les choses, mes relations. Ça a été, j'ai compris, j'ai appris la résilience. C'est aussi terrible que ce que ça a été bénéfique, quoi. Donc, est-ce que je voudrais changer les choses? Non, parce que j'ai appris beaucoup. J'ai été forcée à découvrir. J'ai été forcée à changer des choses. J'ai été forcée à voir les choses autrement. J'ai affronté des difficultés auxquelles la médecine ne répondait pas, en fait. Donc, ça m'a forcée à trouver d'autres issues, ce qui a été dur aussi, ça, hein, de remettre en cause le système médical pour moi, hein. Ça a été un parcours aussi, ça, hein. Ça a été tellement, ouais, initiatique, tellement transformant, ce chemin, que je continue d'ailleurs, hein, qui n'est pas fini, mais qui m'a élevée, qui m'a vraiment élevée. Dans tout, dans ma relation, dans ma relation à mon fils. Ouais, non, je pense que je sais pas si je voudrais en repasser par là. Mais maintenant que c'est fait, en tout cas, voilà. Mais il faut que c'est fait, il faut que ce soit là. C'était comme ça. Donc voilà. Par contre, je pense qu'il y a là où le bas blesse, c'est que il y a un problème de transmission dans l'accouchement et de mes connaissances, et que c'est là que il y aurait pu avoir ça aurait pu être autrement si j'avais été formée, formée. Ouais. Ne serait-ce qu'une transmission mère-fille, tante, je sais pas, amie, sur un accouchement, comment il peut être quand il est vécu de façon positive, sur un accouchement, comment il peut se passer quand il se passe bien, comment il doit se passer bien, sur comment se passe un accouchement en vrai quand tout se passe bien. Faut connaître tous les événements pour mon deuxième accouchement, tout le déroulé de toutes les étapes, parce que c'est long, un accouchement, il se passe plein de choses, de connaître tout ça, ça donne une capacité de faire des choix éclairés. Dans ce que le médical peut proposer, par exemple.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. On parle peu, finalement, des accouchements. Enfin, il y a des récits d'accouchements qui se passent très bien, évidemment. Mais finalement, moi, les témoignages que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, que j'ai pu accueillir, c'est souvent assez édulcoré. On n'en dit pas trop, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
On dit les choses, mais sans plus, tu vois.
Non, oui, c'est un peu tabou comme sujet. Mais au-delà de ça, même dans tous les films qu'on voit, je veux dire, films, on représente les accouchements avec la malle, tout est représenté de façon horrible, quoi.
Ouais.
tout, on baigne dedans, dans toute notre culture.
Mmh. Ouais, c'est sûr.
Et en même temps, avec du recul, est-ce que j'aurais été capable d'entendre ça? Ça aussi, tu vois, tellement baignée dans cette culture, justement, dans ce système éducationnel. Est-ce que j'aurais été capable de l'entendre aussi il y a 10 ans? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que j'aurais refusé d'entendre aussi. Donc, ouais, il y a vraiment un problème de transmission dès le départ.
Qu'est-ce que la maternité a changé en toi? Enfin, comment est-ce que tu vis le fait d'être mère?
Là, avec du recul et ces années et ce chemin, je le vis comme un apprentissage. Il y a différentes, ma vision de l'enfant, des femmes, même du corps qui a changé. Tout ça a changé. Tout ça, ça a été remis à plat. J'ai vraiment, ouais, il y a eu une renaissance, quoi. Il y a eu une renaissance, je dirais, enfin, donc une naissance de moi. J'aime bien dire que je sais pas qui a mis au monde qui entre mon fils et moi. Mais il y a eu un nouveau point de départ à ce moment-là où j'ai choisi de renaître, en plus par l'épisode de mort où je suis revenue, quoi. Il y a c'est cette symbolique-là où je suis revenue et j'ai un peu tout réappris finalement, et puis tout réappris grâce à mon fils, donc dans cette maternité, parce que ben ouais, il y avait des choses assez confrontantes, éducationnelles que je connaissais, mais qui marchaient pas avec lui, quoi. C'était ça passait pas. Donc j'ai dû entrevoir tout ça différemment. Et du coup, j'ai avec tout ce que j'ai appris, j'en ai gardé ce que je choisissais. Je renais avec mes propres choix. Et mes propres nouvelles sensations, mes propres nouvelles façons de penser, mes propres nouvelles façons de voir. Voilà. Et donc, ça part de là et ça continue parce que mes enfants, avec mes enfants, je continue d'apprendre des choses. Les enfants, c'est quand même assez confrontant. Et voilà, et cette capacité de remettre en question ce que je connais, ce que j'ai appris et de voir s'il y a d'autres solutions et si ces solutions fonctionnent ou pas. Mais si finalement elles fonctionnent, qu'elles ont ni queue ni tête ou qu'elles sont délirantes, mais que ça fonctionne et que moi ça me va finalement dans mon nouveau schéma de pensée, bah je prends. Donc voilà, je dirais que ouais, mère, on va se créer des problèmes hein. Quand on est mère, c'est sûr que on va pas vers une vie plus simple. C'est un choix, voilà. Mais pour moi, je trouve que chaque problème, c'est vraiment chaque situation, c'est une marche de mon évolution. Mon fils, il a des problèmes de dyslexie, il a des problèmes à l'école. Voilà, chaque problème que je vais rencontrer, c'est un tremplin à mieux me connaître, quoi. Tu vois. Et ça, voilà, c'est ce que j'aimerais bien transmettre toute cette relation mère-enfant du départ qui part de la conception finalement, et puis de toutes ces premières années qui sont pas toujours évidentes. Hein. C'est vrai, la maternité, c'est quand même
une sacrée aventure.
Une sacrée aventure et dans un contexte social, culturel, où en fait, ça n'a pas sa place, je trouve. Ça n'a pas sa place. Je me rappelle que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, comment ça se fait qu'on accouche encore, en fait, avec toutes les technologies, tout ce que... Comment ça se fait qu'il n'y a pas des couveuses, finalement, maintenant? Je veux dire, il n'y a plus rien qui est fait. Enfin, je prenais le métro, je courais au travail, j'avais ce truc devant, c'était accessoire, la vie continuait, enfin tout était, tout devait être normal, juste avec un gros ventre devant. Donc je me disais, pourquoi on transpose pas ce truc-là dans une couveuse, quoi. Enfin, ça me paraissait totalement inadapté à notre société, quoi, totalement. Donc, je pense que dans le contexte, comment on vit. Les congés maternité qui sont courts, on est seul, la famille n'est pas forcément à côté, le mari rebosse, seul avec un bébé. Et puis même après, les petits-enfants petits, voilà, il y a des confrontations assez importantes. C'est des âges où ils se rebellent, même petits, des âges où ils trouvent leur identité, ils trouvent ils doivent trouver leurs limites, ils testent. C'est des âges où... Ouais, puis ils savent bien appuyer là où il faut appuyer en général, ils savent toucher là où et ouais, et ça je trouve, enfin moi je petit à petit en fait chaque épreuve a été je m'en suis servie comme trouver une solution et aller vers un mieux. Donc c'est des marches, chaque problème est une marche vers un une meilleure version de moi, j'ai envie de dire. Voilà, donc après il y a l'autre côté, hein, le fait d'être mère, c'est aussi beaucoup de doutes, des angoisses. Bon, avec le stress post-traumatique, ça a été dur, hein, pour revenir sur la construction du lien, tout était angoisse en fait, hein, tout était la vie s'arrêtait tous les jours, hein, donc dès que je disais au revoir à mon fils parce qu'il allait chez la nounou, parce que après ça a été l'école, je lui disais vraiment au revoir à chaque fois, quoi. Ça a été dur, ça. Et je me forçais à faire les choses quand même, je les faisais. Mais j'avais peur de le perdre, j'avais peur, moi, de traverser la route parce que j'allais me faire renverser. Voilà, sont venues avec ça aussi des angoisses terribles. Et en même temps, cette confiance qui petit à petit s'installait, voilà, d'être restée là, il y avait une raison et ce qui contrebalançait, c'est ses angoisses, en fait. C'est ce qui m'a aidée à vivre ses angoisses, je crois, cette confiance puissante.
Et bien, voilà. Pour en venir vers la fin de l'épisode, j'aimerais te poser la question suivante. Que t'évoque le titre « Sois sage et parle fort »
Alors, « Sois sage », je connais bien. J'ai toujours été sage, je crois. Enfin, plus loin que je me rappelle, ma mère dit même ça, que j'étais très sage. Donc, j'étais très sage. Et puis, ça veut dire « Sois sage et tais-toi » plutôt. Voilà, pour moi, « Sois sage », c'est plutôt « Se taire ». Et là, je dirais que j'ai envie de parler maintenant. Alors, c'est pas pour plus être sage, au contraire. Mais que, on m'a demandé, en fait, de partager cette expérience. Enfin, en le racontant, on me disait qu'il fallait que je partage. Et donc, de la raconter, quelque chose que je racontais pas forcément. Enfin, où je trouvais pas toujours les gens à qui le raconter aussi. Je sais que c'est dur à entendre, hein, ce que je viens de raconter. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Ça confronte, surtout quand on connaît les gens, on n'a pas envie de savoir à quel point les gens ont souffert, finalement ça fait mal, les gens ils savent pas toujours accueillir ça, donc je me suis beaucoup tue sur le sujet. On sent qu'il faut pas en parler, quoi. C'est des sujets qui sont durs, hein. Et puis à côté de ça, d'autres rencontres qui au contraire demandaient à comprendre, à savoir, et me demandant de pas garder ça pour moi, quoi. Voilà. Et donc, me demandant de parler fort sur le sujet, ce que je ne savais pas trop faire, mais j'essaye. Voilà, donc je dirais que tout ce chemin continue de m'amener vers la sagesse, vers une autre sagesse peut-être, une sagesse où on parle.
Merci beaucoup. C'est une belle définition de cette phrase, je trouve. Être sage, avoir la sagesse d'oser parler fort, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton récit, pour ton témoignage que tu as, voilà, tout ce que tu as vécu, nous raconter un peu voilà, l'envers du décor de la maternité, de l'accouchement. Ça peut être aussi assez terrible et de dénoncer un peu ces violences gynécologiques qui malheureusement existent encore, et même en 2022, de se rendre compte que les violences gynécologiques existent et doivent être dénoncées, et c'est important d'en parler. Donc évidemment, j'invite les personnes qui nous ont écoutées à nous faire leur retour, à nous dire si elles aussi, elles ont pu vivre ce genre de traumatisme. En tout cas, en parler, c'est déjà un premier moyen de résilience, je pense. Voilà, donc je te remercie beaucoup d'être venue parler sur Sois sage et parle fort.
C'est moi qui te remercie, Marie, de m'avoir laissé cet espace aussi de parole, parce que je pense que c'est important. Comme tu dis, encore beaucoup de violence, c'est de plus en plus dénoncé, mais c'est quand même encore très présent. Le personnel médical a des difficultés à se remettre en question, et c'est là, et oui, et je pense qu'il faut parler, parce que moi à chaque fois, et bon, j'ai raconté cette histoire des milliers de fois, hein, mais c'est vrai que même là, je pense que tu vois, de le raconter encore une fois, à chaque fois il se débloque, ou il y a un truc qui arrive, il se passe toujours un truc, à chaque fois que je raconte l'histoire, et puis je raconte pas toujours de la même façon, il y a toujours un truc qui... Donc de raconter, ça libère, et surtout de savoir trouver les personnes qui veulent bien écouter, parce que c'est ça, et que c'est difficile d'évaluer ce qui est tu, au sens terre, hein, tant que c'est tu, tant que c'est pas dévoilé, tant que c'est pas émis, on peut pas avoir d'avis, on peut pas se prononcer.
Mmh. Oui, je pense que c'est important d'en parler.
Et je veux aussi dire que malgré tout, enfin, la résilience, on y accède, quoi. Enfin, on peut malgré les grosses difficultés, malgré des événements sur lesquels on se dit, moi vraiment, je pensais que j'en sortirais jamais. Hein. Ça a été vraiment une descente aux enfers longue et difficile. Hein, et pourtant, voilà, aujourd'hui, je suis capable de regarder ça en disant que ben, il fallait que ce soit là. Enfin, c'est là en tout cas. Mm. Que c'est là et que c'est accepté et que je le transforme, j'en fais une force. Mm. La résilience, c'est Boris Cyrulnik qui l'a défini comme la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme, en insistant sur le fait que c'est un nouveau développement. On peut pas repartir sur de l'existant. On repart sur un renouveau. Et atteindre ce renouveau, bah, je trouve que ça vaut le coup.
Bah écoute, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ces mots-là, parce qu'on se rend compte que même en ayant vécu des choses atroces et des moments difficiles, on peut finalement aller plus loin et pas rester sur la douleur. Et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages comme ça aussi forts. Ouais. Donc je te remercie beaucoup de ton partage. Évidemment, j'espère que toutes les personnes qui nous auront écoutés auront apprécié d'écouter cet échange. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je te souhaite une bonne journée, Marine.
Merci également.
Et voilà, et puis comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort, beaucoup.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.